Maximum, le mag.
On entame maintenant, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, notre séquence hebdomadaire. Christian Quino nous présente chaque dimanche des bonnes nouvelles dans le monde des entreprises de la région. Christian, je te laisse nous présenter tes invités du jour.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
Merci Élise, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche, et c'est bien plus que ça, c'est vraiment du bonheur de vous retrouver le dimanche matin sur Maximum Mute Matinée avec mes deux invités. Et malheureusement, vous dire que mon ami Guy Van Honorgate, malheureusement, ne sera pas avec nous aujourd'hui. Il est retenu par le magazine, il y a également beaucoup de boulot, il a préparé des articles avec moi et ça va être lourd. Autant de vous dire aujourd'hui, ça va être lourd. On va parler d'un sujet incontournable, on en parle dans les restaurants, on en parle dans les cafés, on en parle dans l'entreprise, avec deux invités de poids. Sur ma gauche, Damien Ernst, ingénieur électricien, professeur à l'Université de Liège, bonjour.
Bonjour.
Alors professeur, on est très heureux de vous accueillir, c'est pas une première, on va développer. Face à lui, Jean-Marc Valençon, directeur opérationnel BMO et Mini, Discard, Verviers, Malmedy, Eupen, bonjour.
Bonjour Christian.
Alors voilà, il se passe beaucoup de choses pour le moment, on en parle énormément, on en parle même d'ailleurs bien plus que la dernière sélection de Miss Belgique, vous pensez bien, ça passe à la trappe. Alors le Damien Ernst, je sais pas si vous le savez, mais certains d'entre vous avaient peut-être le poster de Madonna dans leur chambre. Damien Ernst, lui, c'était plutôt Andrea Sakharov.
C'est bien juste.
À 12 ans, il avait le
prix Nobel de physique et c'était mon modèle.
En 1975.
Voilà.
Il avait Andrea Sakharov au-dessus de son lit, physicien nucléaire. C'est pour vous dire dans quelle direction on allait. Alors, je ne sais pas si Jean-Marc Valençon, il avait le poster de Gustave Otto ou de Karl Rapp, fondateur de BMW. Je peux quand même poser la question.
Non, c'était Ayrton Senna, moi.
Ah, cette jeune bonne chose. On était déjà dans les performances, en fait, quelque part.
Tout à fait.
C'est bien. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, on va parler quoi ? On va parler de la sacro-sainte véhicule de tous les jours, véhicule de société et de ces, Dieu sait, contraintes positives ou négatives. On n'est pas encore vraiment, moi je ne suis tout de moins pas formé pour vous en parler, avec donner les bonnes, peut-être les bonnes directions. Toujours est-il qu'on a les témoins privilégiés avec nous. Alors professeur, moi il y a une déclaration que vous avez faite, si je peux me permettre, sur LN24 le 1er juillet 2019. Vous avez déclaré le pire, c'est l'interventionnisme du monde politique. Ils n'ont rien compris. Moi, je trouvais ça vraiment interpellant. On le confirme.
Rien ou quasi rien. En tout cas, ils sont toujours en retard par rapport au développement des technologies, en fait. Moi, j'ai l'impression que la politique énergétique et même la politique de mobilité qu'on met en œuvre à l'heure actuelle, c'est un peu une politique médiévale, en fait, dans le sens où ils ne prennent pas en compte les nouvelles technologies, ce qui va arriver et qui change complètement la nature des choix politiques à faire.
Je pensais qu'au niveau politique, on a une évolution, alors qu'au niveau de la technologie, on est sur la révolution.
Oui. Ben, je pense qu'eux ne voient même pas qu'il y a évolution. Ils raisonnent toujours à technologie constante, en fait. Donc, ils font une photo de la technologie à l'heure actuelle, non plutôt de la technologie qu'il y avait il y a 4, 5, 6, 7 ans. Ils sont dans des vieux dogmes au niveau technologique, alors qu'on est dans une révolution. Ils devraient plus ou moins plutôt faire une photo de la technologie qui aurait dans 6 ans, 10 ans, et anticiper au niveau politique par rapport à cette photo du futur. Futur qu'on connaît, hein, maintenant, à l'heure actuelle, on le connaît. Hein.
Pensez-vous que l'éducation va avoir un élément très, très important dans cette démarche?
Ben, l'éducation aux technologies, hein, maintenant on ne fait plus que penser de sciences sociales, d'assemblées citoyennes, de sciences molles. C'est comme un peu comme s'il y avait un déni de la technologie dans nos sociétés, alors que c'est finalement la société qui est le moteur principal, la technologie qui est le moteur principal de nos sociétés. Mais je dis ça, je vais me faire insulter sur réseaux sociaux par des armées de sociologues. Hein. Mais il faut appeler un chat en fait.
Alors la réflexion est encore basique, c'est un témoignage que nous avons tous lu à travers Sud Presse il y a quelques semaines. Bruxelles, interdiction du moteur thermique. Alors cette l'info, cette light-talk, c'est un rêve, c'est un cauchemar, à votre avis?
Ben, 2035, ça ils ont dit plus que ça. Donc, ils interdisent d'abord les diesels et puis les essences. Ça, c'est quelque chose que je comprends difficilement. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez, par exemple, les normes Euro 6D, bah, les véhicules diesel, en termes de pollution, ne polluent pas plus que les véhicules à essence. Il n'y a plus vraiment de problème de particules fines. Bon, deux, trois petits problèmes, hein, comme on l'a vu encore ce matin, peut-être dans la presse, quoi, il faut nettoyer le filtre à particules ou des choses comme ça. Les NOx, c'est quand même bien sous contrôle. Donc, c'est juste le problème de CO2 qui reste vraiment maintenant avec les véhicules diesel et essence, les nouveaux. Hein, donc on ne peut plus dire qu'ils polluent vraiment l'air des villes de manière significative.
Et le CO2 est plus faible pour un moteur diesel.
Et le CO2 est plus faible pour un moteur diesel. Donc vraiment, si s'ils connaissaient un truc au niveau technologique, moi j'aurais interdit d'abord peut-être l'essence que le diesel en fait.
D'accord. Jean-Marc Valençon, dernier jour, Action Oisel, enfin dernier jour par rapport au Oisel, parce qu'on sait que vous êtes collé par rapport à vos concessions. Comment ça va sur le front? Pas trop épuisé? Ça se passe bien? Quelles sont les premières questions en fait? Quelles seraient peut-être les premières tendances de votre côté?
La tendance, je dirais, l'année dernière, la tendance était plutôt au dénigrement du diesel suite à tout ce que les médias avaient lancé. Et cette année, on n'a pas se ressenti. On est dans une configuration, je dirais, classique, comme à Salon d'il y a 5 ans, où l'essence, moins aujourd'hui que le diesel. On parle évidemment beaucoup plus d'hybride, ça c'est clair, de plus en plus. Mais le diesel n'est pas dénigré comme on l'a fait l'année dernière.
Donc évolution et non révolution chez vous.
Tout à fait, oui.
C'est bien ça. L'hybride, de votre côté, c'est peut-être psychologiquement, peut-être le passage intermédiaire, professeur, je ne sais pas. Est-ce que psychologiquement, c'est encore la phase possible, cette approche de l'économie, tout du moins d'essayer vers l'écologie, je veux dire.
Pour quelqu'un qui veut avoir de la grande autonomie avec sa voiture et qui roule quand même pas mal en ville, donc une hybride c'est pas mal, hein. Donc les petits trajets ils roulent sur sa batterie et puis les grands trajets sur de l'essence. Maintenant appelons un chat, la majorité des gens que je connais qui prennent des grosses voitures, des BM pour de l'hybride, c'est de l'évasion fiscale, hein. Ce n'est rien d'autre.
On est bien d'accord.
Ils roulent rarement sur leur batterie, on est dans un schéma d'évasion fiscale.
Le véhicule
fiscale,
hein. Par sa conception est plus lourd.
Il est plus lourd, oui.
Il est plus complexe aussi. À l'entretien, c'est plus complexe, ça coûte plus cher. Donc, moi, j'y crois pas vraiment aller au véhicule hybride, en fait. Je crois plutôt au...
Mais je pense que le véhicule hybride, aujourd'hui, est un intermédiaire par rapport à une évolution à venir. Mais ça reste un bon choix aujourd'hui par rapport à une autonomie aussi qu'on voudrait un peu plus importante que pour un véhicule électrique et une facilité aussi de rechargement ici puisqu'on met toujours de l'essence.
On va terminer, avant de terminer notre première séquence, une réflexion de Xavier Daff, rédacteur en chef du Moniteur de l'Automobile. Vous savez bien que j'ai des grandes archives à la maison. Je suis retombé sur son article, il avait sorti en 2007. En 2007, Xavier Daff disait, il faisait le relais, on ne savait pas encore si la Commission européenne allait réussir à faire passer une directive, entre parenthèses, contraignante, visant à faire passer la moyenne de rejet CO2 au sein de la gamme d'un constructeur de 140 à 120 grammes. En 2007, quand on dit ça, on est un peu au siècle dernier. Si je reprends le dernier article que Xavier Daff a sorti, là on se rend compte qu'on essaie d'avoir la neutralité carbone en 2050. Donc c'est vrai qu'on est dans des mondes incroyables. 2007, c'est pas si loin que ça. Et pourtant, on est vraiment sur une autre ère. Alors qu'il est clair qu'on a une révolution certainement à mettre en route. Je vous laisserai quelques chiffres juste après la pause musicale. À tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, on est avec vous dimanche, milieu de matinée, enfin les bonnes nouvelles. On va essayer de vous donner tout du moins quelques informations. Et pour les distraits, si vous avez dans votre garage, vous utilisez un véhicule diesel, allez peut-être voir le certificat de conformité. Parce qu'en fait, la dernière info, c'était la voiture diesel Euro 3. Est interdite évidemment à Bruxelles. Petit rappel quand même donc pour les distraits, depuis le 1er janvier, véhicules diesel de norme Euro 3 sont désormais interdits à Bruxelles. Le Ring n'étant pas concerné. Il s'agit donc de voitures diesel immatriculées entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2006. Donc tout ça pour dire, il y a une évolution, mais évidemment, Jean-Marc Valençon, le diesel en 2006 et le diesel en 2020 n'a strictement rien à voir. Ça vient au fait, il faut quand même savoir l'histoire, c'est que l'Europe a en effet imposé une limite moyenne de rejet CO2 de 95 grammes kilomètre d'ici 2021, si je ne me trompe pas, on me dit s'il y a erreur. Et donc, en fait, ceux qui n'attendront pas ce seuil sera sanctionné d'une amende de 95 euros par gramme excédentaire et par voiture vendue. Alors, je parle des constructeurs. Alors, pour certains, ça signifierait donc une tuile de 500 millions, 1 milliard d'euros. Alors, vous comprendrez mieux la ruée vers la prise. Comprenez bien, vers la prise. Toutes les voitures électriques ou hybrides rechargeables vendues sont autant de pas vers l'obtention de ces fameux 95 grammes. Ce qui veut dire que, au pire, il pourrait y avoir, rassurez-nous, M. Valençon, une augmentation des prix des voitures.
Oui, bien sûr. Je pense qu'une augmentation. Il y a eu une interview dernièrement du CEO d'Audi, qui ne l'est plus maintenant aujourd'hui, mais l'ex-CEO d'Audi, qui annonçait une augmentation des prix des véhicules thermiques. qui est prévu, je dirais, dans les années à venir. Oui, bien sûr.
Vous êtes prêt presque à perdre de l'argent sur les véhicules électriques.
Hein, c'est certain,
parce que cette pénalité est très forte. Donc, vous allez rentrer maintenant chez un concessionnaire BMW. Il va vous offrir des tasses de café, va peut-être vous faire boire de l'alcool pour que vous signiez plutôt sur un véhicule électrique. Hein. Dans tous les concessionnaires, il va avoir des quotas. Vous n'avez pas vendu assez de véhicules électriques.
Comment ça se passe ? Une grosse pression chez vous ?
Alors, chez BMW, objectivement, on n'a pas trop de pression, mais il y a certaines marques dont je ne citerai pas le nom. Je sais qu'il y a beaucoup de pression et les concessionnaires sont pénalisés s'ils ne vendent pas suffisamment de voitures électriques. Ou s'ils vendent trop de voitures thermiques, il y aura une pénalité financière.
Alors justement, je regarde un petit peu également dans mes archives. 2007, pour prendre votre marque, 7 modèles. 2020, 17 modèles. Plus les motorisations. Mais rien que dans votre secteur, au niveau de la marque, vous avez déjà 12 modèles, soit électriques, soit hybrides. Donc là, c'est quand même déjà pas mal au niveau de l'approche et du catalogue proposé à la clientèle.
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, dans la gamme, on peut proposer, que ce soit SUV, berline ou maintenant touring, un modèle ou plusieurs modèles hybrides. Donc ça, on a vraiment une gamme très large et qui se diversifie. Et se diversifie toujours vers l'hybridation.
Votre avis, professeur, le patron de la recherche et du développement de chez justement BMW, Klaus Freulich, si je prononce bien, j'espère qu'il ne m'avouera pas trop, a déclaré donc dernièrement à Auto News, je cite, « Nos moteurs à 4 et 6 cylindres diesel dureront encore au moins 20 ans et les blocs à essence 30 ans ».
Il vise aussi le marché de l'export. Hein. Donc BMW, ce n'est pas uniquement une marque basée en Europe, c'est un brand international. Sur les marchés de l'export, c'est possible. Sur les marchés européens, ça se resserre quand même très très vite. La législation se resserre, devient très contraignante. Pour moi, je vois quand même difficilement sur le marché européen, BMW encore vendre plus de 20% de véhicules essence ou diesel en 2030. En 2035, je pense qu'on sera vraiment à 100% électrique, ou alors avec des carburants, ce qu'on appelle des e-fuels, ce sont des carburants, des hydrocarbures, mais synthétisés à partir de renouvelables. Mais la porte quand même de sur l'ère du véhicule traditionnel, le moteur à explosion, est quand même en train de se fermer assez violemment.
Hein. Alors, j'ai gardé la dernière phrase peut-être pour faire bondir, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en parle à tous les quadrus. Cette même personne donc explique qu'ils vont se concentrer sur la pile à combustible.
C'est BM, c'est chez BM.
Oui,
tout à fait. Peut-être aller chez un concessionnaire Volkswagen ou Tesla, alors. Hein. Non, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur colossale. Parce que l'argument de base, c'est que pour une unité d'énergie, ça va devenir du renouvelable. Vous allez faire 3 fois plus de kilomètres avec un véhicule électrique qu'avec un véhicule à hydrogène. Allez, entre 2 et 3 fois plus, on ne va peut-être pas exagérer. Donc en termes de combustible, ça va vous coûter entre 2 et 3 fois moins cher, et peut-être encore plus que 2 à 3 fois moins cher. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène, l'économie de l'hydrogène n'est absolument pas développée, et nécessite en fait une infrastructure significative. Donc ça ne marchera pas. Et en fait, ils sont dans le même déni. Enfin, il y a 15 ans, j'aurais dit oui, bien entendu, c'était l'hydrogène, quoi. Parce que personne n'avait anticipé que le prix des batteries chuterait comme ça. En 5 ans, ça a chuté de plus de 1000 euros par kilowattheure à 150 euros par kilowattheure, et on va atteindre le 100 euros par kilowattheure. Donc l'hydrogène ne sait pas faire face à ce prix des batteries qui chutent, et surtout les piles à combustible, on ne voit pas cette même diminution de prix, et ça reste une technologie difficile à maîtriser. Hein. L'autre jour, je visitais un laboratoire des plus célèbres en France qui dans l'hydrogène, il me disait, dans les voitures, c'est chiant hein, les piles à combustible, parce que ça bouge, ça met des contraintes spécifiques, en plus tout le monde croit que l'hydrogène c'est léger, ouais mais bah, il faut mettre un fameux réservoir hein, quand même pour l'hydrogène qui doit être blindé, la pile à combustible plus le réservoir sur une voiture, là, la Toyota Mirai, pour mettre 5 kWh, 5 litres d'hydrogène, donc on va dire 500 km d'autonomie, c'est 200 kg hein, que ça vous pèse ça. Hein. 200 kg. Hein. Donc 200 kg, vous quand même commencez quand même déjà à avoir un véhicule électrique qui peut faire 200 km en autonomie. Donc c'est même lourd. Hein. Faut pas croire que le véhicule électrique c'est le gros bac lourd et que l'hydrogène c'est léger. Non, non, c'est pas si facile que ça en hydrogène. Hein.
Si je prends les chiffres via la Stabel en 2019, le cap des 100 000 hybrides a été franchi. Soit, malgré tout, 1,9% des véhicules privés, donc j'ai bien dit privés, donc tout véhicule, je ne prends pas le véhicule utilitaire, transport et compagnie. L'électrique, 15 338 véhicules, soit 0,3, donc on a encore un peu de marge. Bon, rien que pour le diesel, il en reste encore sur la route 3 millions. Donc il est clair que c'est assez énorme. Moi, j'ai juste une question à poser à tous les deux. Imaginons, voilà, j'ai 30 000 km à faire par an, je dois changer mon véhicule parce que là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont changer. On va faire 30 000-35 000 km par an. Qu'est-ce que vous conseillez ? La question, professeur.
Moi, maintenant, à l'heure actuelle, je vous conseille de la mettre au gaz, ou au CH4, en fait.
À l'heure actuelle, c'est ça maintenant ?
Moi, c'est ce que je ferais pour un 30 000, ou alors aller vers une hybride. Mais une vraie hybride, hein, parce que dans les hybrides, là, le nombre d'hybrides que vous avez cité, je le redis encore, la majorité des gens qui l'ont acheté, c'est de l'évasion fiscale. Ça a un seul intérêt, c'est peut-être de récupérer l'énergie au freinage avec la batterie. Là, ça a un intérêt, mais très peu recharge sur une prise.
Il y en a quand même de plus en plus.
Et puis, de plus en plus. Et puis, parfois, on est venu avec des modèles, là, des Porsche Cayenne. Quelqu'un que je connaissais qui a une Porsche Cayenne, c'était quoi, du 8 kWh de batterie. Mais la batterie était juste là sur la Porsche Cayenne pour payer moins de taxes de mise de circulation, hein, c'était juste ça. Hein. Je mets une batterie pour faire de l'évasion fiscale.
On est bien d'accord.
Donc, il y a quand même beaucoup
d'hybrides. On va donner une chance à Jean-Marc Valençon pour réfléchir sur la pause musicale. On revient vers lui après. On aura très certainement la bonne réponse. À tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça.
Troisième séquence, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Il a gratté, je vous assure, il a gratté. Il va essayer de nous sortir le véhicule magique, 30-35 000 km par an. Jean-Marc Valençon, directeur opérationnel d'ISCAR. Ce serait quoi le bon véhicule ?
Pour moi, le bon véhicule aujourd'hui reste le moteur diesel. En sachant qu'en plus, une personne fait 30-35 km par an, bah, il va changer d'ici 3 ans. Et d'ici 3 ans, Dieu sait ce qu'on nous proposera. Donc je pense aujourd'hui, vraiment, le diesel reste dans ce kilométrage-là, le maître achat.
Alors justement, ça va vous faire plaisir, parce que j'ai un beau texte alors auquel vous allez adhérer tout de suite. La revue Test Achat avait publié en novembre dernier un dossier titré « Le diesel pas si sale ». Et donc, en fait, indiquant que les dernières voitures diesel conformes aux normes Euro 6D n'ont plus rien à envier aux véhicules essence. C'est quelque part sur le front de bonne nouvelle. Votre avis, professeur ? C'est vrai qu'il y a une grosse évolution technologique.
C'est tout à fait correct. On a juste vu un petit scandale ces derniers jours. C'est quand ils nettoyaient le filtre, automatiquement, après 15 000 km, le filtre à particules, ils émettaient quand même plus de particules que la norme ne le permettait. Et pour moi, ça, c'est un petit problème technique qui va être réglé. Donc, effectivement, avec la technologie, vous pouvez tout faire. Donc, je le redis encore, cette haine aveugle, en fait, du diesel n'a plus de sens en termes de pollution de l'air dans les villes. Et en gros, quand vous raisonnez réchauffement de la planète, émission des CO2, on parle quand même pour une diesel de 10 à 15% en moins d'émissions de CO2 par rapport à une voiture essence. Donc j'ai envie de dire, le bon choix écologique maintenant est le diesel propre, l'Euro 6D, qui respecte bien toutes les normes, pour quelqu'un qui veut rester dans le moteur thermique.
Alors j'ai une réflexion, parce que je suis utilisateur de voitures comme beaucoup, je suis passionné aussi de voitures. Il est clair qu'on a des véhicules électriques qui sont performants, je vous assure, j'ai essayé, mais qui sont aussi de plus en plus lourds. Au départ, on avait des véhicules électriques, je prends le cas de Renault, la Renault Zoé était sortie, des petits véhicules compacts qui étaient très très bien, mais malheureusement, encore une fois, les véhicules sont de plus en plus lourds. Parce que c'est ma réflexion, moi le véhicule, je pense le véhicule économique en essence, il existait il y a 30 ans. Parce que si vous prenez le poids d'une Golf il y a 30 ans et prendre le poids d'une Golf maintenant, on a quelques centaines de kilos de différence, on essaie de garder la même puissance, on essaie d'avoir des boîtes de vitesse exceptionnelles, je ne dis pas, mais le poids il est là. Et contre le poids, on ne sait pas faire grand-chose.
Le poids, pourquoi est-ce qu'elles ont monté en poids les véhicules? À cause des normes de sécurité. Moi, je préfère vraiment faire un accident dans une Golf maintenant que la Golf il y a 30 ans. Vous imaginez, la deux chevaux, là, il y a des années 70 ou 60, d'accord. Vous faisiez un accident à 50 à l'heure contre un arbre, vous étiez mort là-dedans.
Je voulais juste faire le rapport.
Oui, mais bon, donc voilà, donc prendre le rapport, voilà, les normes de sécurité augmenter. Maintenant, est-ce que le poids est important pour un véhicule en termes de consommation? Sur autoroute, vous en foutez du poids. Le poids vous pénalise au niveau consommation quand vous accélérez et freinez beaucoup. Mais sur un véhicule électrique, comme une grosse partie de l'énergie de freinage est récupérée, en fait, vous rechargez la batterie, ça importe peu. Donc, lier directement le poids à une consommation excessive, quand on parle du véhicule électrique, un véhicule électrique qui est bien pensé, où il a une bonne récupération et d'énergie, c'est un peu court comme argument pour le condamner. Et en tout cas, ce n'est pas du tout connaître la physique de la consommation des véhicules.
Alors, on a des conforts extraordinaires, parce que c'est vrai qu'on a des voitures extrêmement confortables, mais malheureusement, pour monsieur et madame tout le monde, le prix ne régresse pas. le prix ne régresse pas. Bon, je remarque, on a des véhicules électriques extraordinaires, hybrides, ce qu'on veut, mais c'est quand même des tarifs quand même assez élitistes.
La voiture électrique, aujourd'hui, reste une voiture plus chère qu'une voiture thermique, oui, bien sûr. Dû aux batteries essentiellement, je pense qu'ils coûtent assez cher aujourd'hui. Maintenant, apparemment, les prix vont être revus, mais je pense qu'également l'offre et la demande fait que les voitures électriques sont toujours plus chères aussi. Le jour où il y aura plus de demandes,
À l'usage, c'est quand même deux fois moins cher, hein, véhicule électrique. C'est deux fois moins cher. Il y a moins d'entretien, ils ne supportent pas ça, les concessionnaires, parce que sur un véhicule électrique, vous n'avez plus d'entretien. Enfin, les plaquettes de frais après 100.
C'est pas spécialement une bonne nouvelle pour la concession.
Non, ils ne supportent pas. Et en car, donc plus d'entretien, et en carburant, 2 à 3 fois moins cher. Donc voilà, l'usage. Moi, je pense que maintenant, on arrive, si vous êtes dans la gamme, allez, d'un véhicule électrique entre 25 et 35 000 euros, hein, on est dans cette gamme-là, par rapport typiquement au modèle 3, une Nissan Leaf ou des choses comme ça, ça vous revient quand même moins cher sur l'usage qu'une Golf que vous payeriez peut-être un peu moins cher à l'achat. Ça, alors, c'est clair. Les Chinois vous font maintenant des véhicules électriques, je le dis, 400 km, 15 000 dollars, donc plus ou moins 15 000 euros. Donc, on est en train d'arriver dans l'ère du véhicule électrique qui n'est pas si cher que ça. Et une fois que les constructeurs arrivent à mettre sur les marchés européens des véhicules électriques 400 km d'autonomie, les gens aiment ça. Ils veulent aller à la mer et pouvoir rentrer sans avoir trop de craintes. Donc, 400 km d'autonomie, 15 000 euros, vous allez voir comme le marché va exploser. Hein. Mais ils doivent arriver à ce prix-là. Vraiment faire du véhicule autonome électrique un véhicule populaire. Mais ça avance. Hein. Il y a quelques années, vous n'aviez que des modèles, les beaux modèles, c'était 80 000 euros. Le Tesla Model 3, on est plus à 40, 45 000. Ils avancent, les prix sont en train d'être comprimés.
Il y a de plus en plus de.
Permettez-moi de poser la question qu'on ne pose pas, mais je vais quand même poser. Dans 4-5 ans, on ne se risque pas, mais bon, ça ne dépend pas de vous, mais de payer une taxe pour recycler les batteries qui sont dans les voitures. On ne va pas se faire avoir là aussi, je ne sais pas.
Si, bien sûr, vous allez payer une taxe pour recycler. Hein. Vous allez payer une taxe d'immatriculation sur les véhicules électriques. C'est maintenant, la filière est en train de se lancer, mais disons-le aux gens, hein, ils paieront chaque année même une taxe de circulation pour leur véhicule électrique. Je suis persuadé. C'est la même chose qui s'est passé avec les panneaux photovoltaïques. On a déversé de l'argent pour lancer une filière au départ. On aurait dû attendre avant de déverser de l'argent. Et puis, à un moment donné, on leur réclame de l'argent. Donc moi, j'ai même envie de dire à l'État, maintenant, pour éviter de faire des déçus, que les gens investissent trop tôt dans les véhicules électriques, arrêtez tous les incitants fiscaux sur les véhicules électriques. Ils vont s'imposer naturellement. Venez peut-être avec une régulation un peu plus contraignante, le 95, mais arrêtez ces trucs où vous donnez de l'argent aux propriétaires de véhicules électriques, où en plus vous créez une injustice sociale, puisque c'est quand même que les gens qui ont des revenus aisés qui savent en acheter. D'accord. Donc je dis stop. C'est pour ça que je dis, vous avez commencé l'émission en disant il faut que le politique arrête de se mêler de politique énergétique. Oui, mais qu'ils arrêtent. Considèrent le véhicule électrique comme un autre véhicule au niveau de la taxe. Hein, et ils mettent juste des régulations sur les grammes de CO2, sur une flotte. Régulation que je trouve assez intéressante.
On est à quelques heures de la fin du Ezel. Si vous aviez encore un message, une phrase, puisqu'après de choses près, je serais peut-être le dernier à vous avoir comme témoin pour clôturer le Ezel, ce serait quoi ?
Allez acheter une BMW chez
le père. Oui, mais nickel.
Je pense que la phrase pour clôturer, c'est franchement pour le consommateur, période très difficile, parce qu'on est dans une période de transition. Il n'y a pas le choix très très blanc qui apparaît comme il y avait quelques années. Il y a quelques années, vous conseillez le diesel, c'était le choix blanc. Maintenant, vous avez un peu peur des régulations qui les empêchent de rentrer dans les villes, les prix de revente ou des choses comme ça. Donc c'est une période stressante pour un acheteur de voiture. J'ai envie de lui dire, dans 3-4 ans, ça se passera beaucoup mieux.
Jean-Marc Valençon, dernier mot. Venez boire un café à la concession.
Voilà, venez à la concession. Oui, à nos 4 différentes concessions, Liège, Verviers, Eupen et Malmedy, avec plaisir. Et on vous conseillera du mieux qu'on peut, comme on l'a toujours fait. Et vous partirez heureux avec votre voiture, il n'y a pas de souci.
Eh bien, c'est parfait. Je suis vraiment très heureux de vous avoir eu tous les deux en studio au même moment. Ça n'a pas été simple, on y est arrivé. Je souhaite tous et à toutes un excellent dimanche, une excellente après-midi qui s'est peut-être encore en vitesse. Il n'y aura trop souvent pas trop de circulation ce dimanche après-midi sur le Ezel. À bientôt, au revoir.